Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quel rôle la grâce joue-t-elle dans le salut de l'homme. Alors, on va commencer tout de suite par le verset dans Hébreux chapitre 4 au verset 16 qui nous dit: Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Voilà, alors ce verset que nous venons de lire nous parle du trône de la grâce. Normalement, c'est une personne qui est assise sur un trône, hein, et non pas une qualité ou une caractéristique particulière, ce qui nous pousse à chercher un petit peu plus loin et à nous demander pourquoi, justement. On nous parle de ce trône de grâce et non pas de la personne qui est gracieuse sur ce trône. Eh bien, tout simplement parce que à plusieurs reprises dans la Bible, on trouve que Dieu est esprit et il remplit tout en tous. Et en fait, il est pleinement dans son ministère, dans son mandat. En fait, ce n'est pas un ministère, il est le souverain de toutes choses. Hein. Il est tout puissant, il est le tout puissant. Donc, ce trône, c'est lui et c'est lui la majesté au-dessus de tout. Donc là, c'est comme si la grâce était une personne à part entière, en fait, dans ce verset. Mais nous, si nous voulons nous approcher du trône de grâce, il faut comprendre que c'est Dieu, notre Père céleste, qui est lui-même défini comme la grâce divine, la grâce suprême, en fait. Cela, ça veut dire que c'est plus qu'un trait de caractère chez lui, en fait. Il est carrément l'ambassadeur de la grâce. Il est la grâce personnifiée, à tel point qu'on ne le nomme, on peut le nommer directement par ce mot-là, en fait. Et dans ce passage-là, il n'est pas nommé autrement que comme étant la grâce. Donc la grâce tout entière le remplit, et il n'est que grâce. Voilà, c'est vraiment lui pleinement. C'est comme si on nous donnait un autre nom par lequel on pouvait l'appeler, tellement il est rempli de grâce. Donc sa majesté, sa grâce, voilà, c'est vraiment explicite. Ensuite, on nous dit que le secours vient de la grâce. Alors nous devons trouver grâce auprès de la grâce, justement. Trouver grâce, c'est quoi? C'est obtenir la confiance ou l'indulgence. Et là, on nous demande d'obtenir la confiance ou l'indulgence de la grâce elle-même pour obtenir le secours dont nous avons tant besoin. En réalité, on n'a pas besoin d'obtenir la confiance ni l'indulgence, puisque on nous dit dans beaucoup de versets, on nous parle de la miséricorde de Dieu, et un des synonymes de la miséricorde, c'est l'indulgence. Et si Dieu a pris cette décision de lui-même d'envoyer son Fils, justement, pour nous offrir le salut dont on avait besoin, eh bien c'est parce que l'indulgence envers nous, il l'a. Voilà, on n'a pas besoin d'aller l'obtenir. Donc voilà, c'est plutôt l'inverse, en fait. Voilà. Bon, c'est à nous de lui demander humblement. Mais on peut avoir confiance, on peut s'approcher de lui en sachant que il est miséricordieux, il est indulgent, il est quelqu'un de confiance. Voilà. Donc avoir confiance dans le fait que la grâce ne faillira jamais, en fait. Cette grâce-là, elle est obtenue une fois pour toutes. Et elle est omniprésente dans toutes ses promesses qu'il nous fait. Donc il faut nous approcher avec assurance, sans douter, ni avoir peur que le secours qu'on nous propose nous soit refusé. Dieu n'est pas quelqu'un qui va nous faire croire que on peut s'approcher de lui avec confiance pour accéder au secours, au salut, et au dernier moment nous dire: ah ben non, 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 je suis désolé, finalement t'es pas bon, quoi, t'es pas assez bon. Non, c'est pas ça, ça n'existe pas chez lui. Ça, c'est voilà, c'est le trompeur, ça, c'est le menteur qui nous fait croire ces choses-là, parce que lui-même est comme ça. Satan, c'est un trait de son caractère. Donc voilà, il fait des promesses qu'il peut pas tenir et des promesses de mensonge, en fait. Donc dans Éphésiens 2, au verset 8, on nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce passage est clair. Donc il s'agit bien d'un don. C'est un cadeau que nous ne méritons pas, mais que Dieu pourtant nous offre parce qu'il nous aime plus que toute autre chose. Dieu nous fait cadeau de sa grâce pour que nous soyons sauvés et placés ensuite à ses côtés. Il nous veut à ses côtés. C'est une faveur imméritée qui nous est faite par lui dans sa grande miséricorde. Alors, faveur, justement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, quand on cherche un peu dans le dictionnaire, l'explication la plus proche, la définition la plus proche, c'est disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale, une marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié ou d'amour. Ben, c'est exactement ça, en fait. On est des êtres spéciaux pour lui. Il faut bien le comprendre, en fait. Et il nous porte cette marque d'intérêt. Il ne l'a pas fait pour, je sais pas, une certaine catégorie d'animaux ou pour la végétation. Il n'a pas dit... Il savait qu'à un moment donné, l'homme infligerait des mauvais traitements à la nature qu'il a créée. Mais il a choisi, lui, de sauver l'homme, l'être humain. L'homme et la femme, évidemment. L'homme, au sens vague du terme. Donc, pour lui, on est des êtres exceptionnels. Et il nous démontre justement cette bienveillance spéciale, cette marque d'intérêt spéciale en nous offrant son Fils. Éphésiens 2, versets 4 et 5 nous dit « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Oui, on est sauvés parce que, justement, Dieu est grâce. Voilà, il nous a fait grâce. Donc, poussé par son amour sans limite pour nous, il nous accorde sa grâce et il nous offre le pardon de tous nos péchés. Il nous fait grâce comme des prisonniers graciés, en fait. On était emprisonnés dans le péché. Et voilà, lui, parce qu'on a accepté l'œuvre de la croix, il nous apporte cette grâce et il efface, en fait, notre condamnation. Donc, et ça, c'est par le Dieu suprême, hein, le Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône suprême dans les cieux. Donc il n'a pas regardé à nos fautes et il ne nous les rappelle pas lorsque nous nous approchons de son trône. Mais il regarde à Christ qui fait office de filtre entre lui et nous. Il est là en fait, Christ, pour filtrer justement cette mauvaise couleur qu'on peut avoir ou cette mauvaise odeur, justement pour qu'il n'y ait plus qu'une bonne odeur ou une belle couleur qui parvienne, quelque chose de pur, qui parvienne à Dieu directement. Christ, il a épongé tout ça. Voilà. Et seulement... Il ne nous voit plus que seulement comme des enfants qu'il aime, en fait. Voilà. Donc Jésus, il s'est mis au milieu, justement pour jeter un voile définitif sur tous nos péchés. C'est pourquoi, une fois qu'on a accepté justement le Seigneur Jésus, oui, on va commettre des péchés, mais pas volontairement. Déjà, il faut qu'on ait une haine du péché et un vrai rejet du péché. Mais en plus de ça, en demandant pardon, par la repentance, en s'approchant à chaque fois de Dieu, Christ fera office justement de cette éponge pour nous purifier à chaque fois. Voilà. Donc ce filtre efface nos péchés et nous permet de nous approcher avec assurance et foi de notre Dieu de grâce, justement. Alors, on continue. Romains 3, versets 23-24, nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » À la base, on est affublé du péché automatiquement, hein, à notre naissance. Le péché... On a cet héritage de nos ancêtres Adam et Ève, hein, qui ont péché. Et on vit sous ce joug tant qu'on n'a pas accepté l'œuvre de Christ pour notre vie. Ce verset dans Romains 3 nous dit que c'est par la rédemption de Christ que nous passons par la porte du salut. C'est grâce à cette rédemption. C'est à cause de cette rédemption, quand on atteste que c'est réel et que Christ a réellement fait ça pour nous, on passe par la porte, par cette porte-là du salut. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis la porte ». Dans Jean, chapitre 10, verset 9, il a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Donc il entrera et de l'autre côté, quand il aura passé la porte, il va ressortir, mais il va tomber directement dans des pâturages verts, verdoyants, où coulera l'eau de vie, voilà, où il ne manquera de rien. Il est possible que le Seigneur use de plusieurs moyens tout au long de notre vie terrestre pour nous faire prendre conscience de l'importance de revenir à lui. Mais le fait est que nous sommes tellement parfois enracinés dans des traditions religieuses ou familiales ou différentes règles morales qui nous ont été inculquées et qui nous ont forgées depuis notre jeunesse, qu'on a été rendus complètement hermétiques à la grâce de Dieu. Mais le Seigneur, lui, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait comment il doit procéder avec chacun de ses enfants parce qu'il les connaît mieux que personne. Dites-vous, mes frères et sœurs, que toutes les fois où justement il a utilisé un moyen pour vous appeler mais que ça n'a pas réussi, ça n'était pas du tout un échec pour lui. Bien au contraire, c'était plutôt un moyen de travailler en vous, de semer pour le bon moment, le bon moment qu'il a choisi, pour vous ouvrir les yeux spirituels. Donc voilà, le travail que fait le Seigneur n'est jamais vain, que ce soit par quelqu'un d'autre, que ce soit par n'importe quel moyen. Il est souverain, donc il sait, il y a des gens qui seront touchés par la louange, d'autres qui seront touchés par des paroles, d'autres qui seront touchés par un miracle. Voilà, il sait exactement, c'est pour ça que dans les évangiles, il n'a pas fait que des miracles, mais on voit, que juste par sa présence, certains étaient déjà convertis à sa cause. Voilà. Quelquefois, Jésus n'avait rien besoin de dire que la femme à la perte de sang, elle voulait juste toucher son vêtement. Voilà. Elle avait compris que simplement sa présence allait la transformer. Donc, chaque graine semée, que le Seigneur permet d'être semée, en vous ou en quelqu'un d'autre, doit porter du fruit. Et nous qui sommes les semeurs, eh bien, nos prières vont servir d'arrosage pour les faire germer, justement, ces graines. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, après lui avoir parlé de l'évangile, de Jésus, du salut, c'est cette eau de vie que le Seigneur déverse par le biais de nos prières qui fera que ses racines vont germer et vont grandir. Voilà, c'est lui, après, qui arrose par nos prières quand on prie pour, justement, pour les libérer, pour qu'ils aient cette révélation et l'acceptation de tout ce qu'on leur a dit. Donc, c'est pourquoi il est important de prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu le message du salut. Dans Jean 6, verset 44, on nous dit: Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est pas vous qui venez à lui, mais lui qui vient à vous. Il faut qu'il travaille d'abord votre cœur, pour qu'il puisse ensuite, au moment propice, vous laisser, pour que vous le laissiez, pardon, agir, et qu'il puisse vous ouvrir les yeux, justement. De même, quand le voile séparant le lieu saint du Saint des Saints dans le temple a été déchiré de haut en bas, au moment de la mort de Jésus sur la croix, ça a permis justement l'achèvement de la première alliance. Alors, la première alliance, c'était quoi? C'était les ordonnances liées au culte dans le sanctuaire terrestre, qui reposaient sur les sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. Le Seigneur Jésus, en s'offrant une fois pour toutes comme sacrifice parfait, il a couvert toutes sortes de péchés pour le monde. Donc, il a pris la condamnation sur lui. C'est pour ça que ça a complètement déchiré le voile, justement, qui séparait ces deux parties dans le temple. Les exigences de la justice divine ont été complètement satisfaites dans cet acte-là. Puisque, voilà, après Jésus, il n'y a plus besoin de faire de sacrifice. Et la deuxième alliance, qui est amenée par Jésus, justement, a pu prendre place. Ce qui implique qu'à présent, toute personne s'approchant de Dieu en esprit, par le moyen de l'œuvre de la croix, est justifiée par elle. Il n'y a plus besoin de se rendre dans un quelconque endroit pour trouver la présence de Dieu. Il se trouve là où nous sommes. À chaque moment que nous l'invoquons, avec foi et humilité de cœur, il se laisse approcher. Ce qui plaît au cœur de Dieu, c'est la foi et l'humilité de nos cœurs. Lorsque nous acceptons de passer par la repentance, c'est ainsi que la grâce de Dieu agit pour notre vie. Sans l'humilité, nous aurons du mal à être entendus de lui ou nous approcher de lui. On ne pourra pas être à s'approcher de lui. Parce que 1 Pierre 5, au verset 5, nous dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu, d'autres versions disent, résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc il faut montrer un cœur humble. Et ce cœur humble, voilà, on ne l'a pas si on n'est pas prêt à se repentir. Jésus est venu il y a 2000 ans, et tant qu'il n'est pas revenu chercher son Église, c'est-à-dire l'ensemble de ses enfants qui se seront préparés et sanctifiés, sa grâce sera accessible pour tous ceux qui en manifesteront le besoin, mais surtout l'envie. Voilà, faut avoir cette révélation. Donc, pour y accéder, il suffit à chacun de reconnaître son état de pécheur et de besoin illimité de l'aide de Dieu pour sa vie, pour notre vie. Sans quoi cet état de péché nous mène à la mort spirituelle. Parce que le salaire du péché, nous dit Romains 6 au verset 23, c'est la mort. C'est aussi l'ordre que Dieu avait donné à l'être humain et qu'on retrouve dès le chapitre 2 de la Genèse. La première chose que le Dieu créateur dit à sa créature chérie, est de prendre garde à ne pas désobéir sous peine de perdition, sous peine de mort. Il voulait bien évidemment parler de la mort spirituelle, et non pas de la mort physique. On l'a vu, puisque lorsqu'ils ont péché, Adam et Ève ne sont pas morts physiquement, mais ils ont été coupés de la grâce de Dieu, voilà, de la relation qu'ils avaient avec lui. Cette relation, en fait, illimitée. Genèse donc 2, au verset 16 et 17, nous dit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'être humain en disant: Tu pourras, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant alors à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. J'ai fait exprès de prendre cette version-là, qui est vraiment extrêmement fidèle au texte hébraïque d'origine. La traduction est vraiment reprise mot à mot pour vraiment saisir chaque sens. Tout est important, en fait, dans ce que le Seigneur a permis d'être transcrit dans sa parole. Et lorsqu'un terme est répété deux fois de suite, c'est en général pour accentuer l'importance du message. Traduire une urgence ou appuyer un élément important, un danger ou une émotion, et c'est pour la renforcer. Il y a beaucoup de traductions françaises qui n'ont pas été fidèles à ça. Alors, sauf quand Jésus dit en vérité, je vous le dis. Alors, pratiquement toutes les Bibles ont bien traduit cette partie-là, mais il y a beaucoup d'autres passages, en fait, où les traducteurs n'ont pas jugé bon de répéter deux fois le même terme, alors que pourtant, si le Seigneur a jugé bon de le faire écrire ainsi, c'est par ses serviteurs au tout début, c'est justement pour que le lecteur puisse être alerté sur l'importance de cet avertissement. Donc, Dieu a voulu dire à ses enfants combien l'obéissance par la foi en lui est capitale pour notre salut, justement, dans ce passage-là. Un autre verset dans Exode 34, versets 6 et 7, nous dit: l'Éternel, donc c'est à nouveau répété deux fois, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Alors là, on voit quand même que quand on parle de grâce et de miséricorde, là, c'est vraiment c'est sans limite. Hein. Il y a personne qui peut ne pas bénéficier de la grâce de Dieu à partir du moment où il s'humilie devant lui et qu'il la demande. Donc, la grâce est bien plus qu'un trait de caractère de Dieu. C'est un des noms par lequel on a la possibilité de l'appeler avec confiance. Hein, on l'a vu au début. Parce qu'une multitude de versets dans toute la parole de Dieu nous parle justement de la miséricorde infinie de notre Créateur, de notre Père céleste. Nous avons vu un Dieu d'amour et de grâce et miséricordieux à l'infini. On pourrait aussi bien le nommer compassion, piété, clémence, indulgence. Et en fait, il est comme ça, notre Dieu, notre Père. Il est l'infini, il est l'éternité. Alors en conclusion, pour reprendre justement le titre de ce message, quel rôle joue la grâce dans le salut de l'homme ? Eh bien, sans la grâce de Dieu, pas de salut, mes frères et sœurs. L'un ne peut pas aller sans l'autre, et Dieu est à la fois notre grâce et notre salut. Il s'est offert pour nous, il a offert ce qu'il avait de meilleur, et nous a fait ce cadeau inestimable de pouvoir ne faire qu'un avec lui à tout moment. Parce que c'était sa volonté première, en fait, quand il a créé l'être humain. Donc approchons-nous de lui sans la crainte d'être jugé, parce que Jean 3, verset 17, nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Voilà, mes frères et sœurs, je vous souhaite d'être bénis et que le Dieu de grâce vous bénit et vous fortifie puissamment. Shalom à tous.